Loire FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Le week-end ludique et familial des cultures numériques Super Demain a lieu les 13 et 14 mai à Lyon. C'est la deuxième édition cette année. Le but, mieux comprendre les enjeux de cette culture et le fonctionnement des nouveaux outils. Julie Bourgeot est avec nous. Vous êtes responsable de la programmation donc de Super Demain. Bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, présentez-nous un petit peu Super Demain, c'est que la deuxième édition, donc peut-être que certains ne le connaissent pas, quel est l'ADN de ce rendez-vous?
Alors Super Demain, c'est un événement de grande ampleur pour reconnaître un peu l'importance du numérique dans nos vies, pour développer des compétences, pour apprendre des choses sur le numérique, sur les cultures qui découlent du numérique, et puis pour s'amuser, pour jouer, et voilà, pour découvrir un peu de nouveaux outils, de nouveaux jeux, etc.
Alors le but, vous l'avez dit, c'est de mieux comprendre les enjeux de cette culture numérique. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, culture numérique? Qu'est-ce que vous mettez, vous, en tant que Super Demain, en tant que Fréquence École, sous, parce que c'est Fréquence École donc, qui organise, qu'est-ce que vous mettez comme réalité sous ce gros mot de culture numérique?
C'est une très bonne question. La première question, c'est finalement, numérique, ça veut dire quoi? Parce qu'on utilise tous ce mot numérique sans forcément savoir ce qu'il y a derrière. On dit qu'on va vers notre transition numérique, qu'on doit réussir le challenge de l'éducation numérique, etc., etc. En fait, le numérique, qu'est-ce que c'est? Le numérique, c'est, au sens propre du terme, quelque chose qui peut être chiffré avec des nombres, des 0 et des 1. D'où, en fait, l'utilisation des ordinateurs. Et on utilise aujourd'hui le mot numérique surtout pour parler de ces informations, du coup, qu'on a pu stocker sous forme de 0 et de 1 sur des ordinateurs qui circulent massivement. Et c'est à partir du moment où il y a un réseau, où il y a vraiment de l'échange d'informations et énormément d'informations qu'on parle de numérique, véritablement. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui pour notre transition numérique, alors qu'en fait, on est déjà passé au numérique puisqu'on utilise des CD, des ordinateurs, des téléphones, plein de choses qui sont électroniques et qui fonctionnent avec des cartes mémoire depuis assez longtemps.
Et le but finalement de Super Demain, c'est aussi de peut-être, j'allais dire, moins avoir peur de ce numérique qui des fois peut un peu aussi effrayer, on se demande un peu ce qu'il y a derrière. C'est aussi de pouvoir mieux se familiariser, se rendre compte que c'est pas aussi terrible que ça peut en avoir l'air.
Alors oui et non, en tout cas l'important c'est de se poser les questions. Effectivement le numérique ça peut faire peur parce que c'est nouveau et parce que ça transforme énormément nos usages. Autrement dit, on est toujours en crise, on sait jamais exactement ce que font les adolescents, ce que font les enfants. Moi j'ai 25 ans et je suis pas sûre de savoir comment les adolescents utilisent les réseaux sociaux. Mais voilà, l'important c'est de se poser des questions, d'essayer de comprendre un peu les usages de chacun, d'essayer de se demander ce que ça a pu changer dans nos vies, comment c'était avant, comment c'est maintenant, et voilà, de pouvoir se faire son propre avis en fait.
Donc Super Demain l'an dernier c'était 4500 visiteurs, dont 800 familles donc, qui ont été accueillies. Cette année vous voulez une édition plus ambitieuse, quelles sont les grandes nouveautés de cette deuxième édition de Super Demain?
Alors les grandes nouveautés, c'est tout simplement deux fois plus gros, donc il y aura beaucoup plus d'ateliers. Cette année on est dans les 45 ateliers environ que vous pouvez découvrir, qui sont ouverts à tous, qui sont accessibles à tous. Enfin peut-être pas aux tout petits, il y a un espace réservé aux tout petits qui s'appelle l'espace petite enfance, voilà, qui est fait pour ça. C'est aussi cette année un peu plus ouvert vers l'extérieur, on a des gens qui viennent de Bordeaux, de Paris, de Strasbourg, etc. Donc on devient un peu plus massif, on va dire, en termes de rassemblement des acteurs de l'éducation numérique.
Alors vous disiez donc 45 ateliers, 8 grandes thématiques seront abordées aussi lors d'une vingtaine de conférences. On va voir l'école, les emplois, la solidarité, la consommation. Finalement, quel peut-être le rôle du numérique dans ces secteurs? Est-ce que le numérique a un rôle différent en fonction des secteurs?
En fait, comment dire? Le numérique, c'est un outil, donc lui attribuer un rôle, c'est un peu peut-être beaucoup pour lui. Tout va dépendre de ce que font les humains avec, en gros. Donc l'important, c'est de se poser la question dans chaque domaine de nos vies, qu'est-ce qui transforme et qu'est-ce qui peut, par exemple, améliorer? Donc il y a l'école, il y a le sujet de l'école. L'école, c'est double tranchant. En gros, l'école doit évoluer parce que le numérique est arrivé et que du coup, les usages ont changé. Par exemple, on va regarder des informations, on a un accès direct à la connaissance sur notre téléphone, on a un accès direct aussi à des machines qui permettent de calculer. Donc finalement, comme on a ces outils qui permettent de se rappeler, calculer, etc., etc., à notre place, est-ce qu'il faut toujours qu'on apprenne ça dans la vie? Ou est-ce qu'il faut qu'on apprenne des choses différentes, peut-être un esprit critique, peut-être le fait de savoir s'adapter aux outils, peut-être des compétences stratégiques. Voilà, donc ça c'est les évolutions qui sont un peu obligé, on va dire, parce que le numérique est arrivé et que ça a changé nos pratiques par rapport à l'apprentissage. Et puis d'un autre côté, on peut aussi se dire, bah tiens, le numérique, est-ce que c'est pas aussi une opportunité pour l'éducation? Est-ce que ça va pas nous permettre de peut-être faire du lien entre l'école et la maison, mettre des gens en dialogue qui n'étaient plus forcément, ou en tout cas difficilement, voilà. Donc on se dit aussi, c'est un outil, et qu'est-ce que je peux imaginer comme avenir pour cet outil à l'école? Est-ce que ça peut être utile? Oui, non, pourquoi, etc.
Donc il y a effectivement ces conférences pour réfléchir, essayer de voir un petit peu avec pas mal d'intervenants, on l'a dit, 45 ateliers. Le but, c'est de pouvoir toucher, tester, oser.
Exactement, donc normalement on peut toucher, tester, oser tout. Donc on a essayé d'avoir un peu tout dans cet événement, d'avoir presque toutes les thématiques qui peuvent être abordées, on va dire tout ce qui peut vous concerner. Donc il y a la culture, la consommation, les médias, la parentalité, l'école, l'emploi, etc., etc. Bon, il manque le sport, mais voilà. Donc oui, les ateliers, ils sont là pour manipuler, pour tester, pour jouer. Et en fait, c'est aussi via ces ateliers-là qu'on va apprendre et qu'on va comprendre ou prendre du recul. Il n'y a pas que les conférences pour réfléchir, en fait, les ateliers, parce qu'ils sont ludiques, ils permettent de prendre du recul sur pas mal de choses aussi.
Par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme atelier?
Alors, très bonne question. Donc, pour comprendre, les images, par exemple, les images qui sont retouchées, donc en fait assez irréelles, hein, complètement décalées des images de la vraie vie. On a un atelier où, qui s'appelle Ma Petite Agence, qui se trouvera dans l'espace sur la consommation, je crois, où en fait on va sortir un burger de son emballage, on va regarder un petit peu la différence entre l'image qu'il y a sur l'emballage et la tête du burger, et après on fait ce qu'on appelle un maquillage alimentaire. Donc en fait on prend le burger qui était dans la boîte. Bon, c'est pas forcément le cas dans la vraie vie, souvent on prend un autre produit ou même on l'invente de toutes pièces, mais nous on va partir de ce burger là à la base, et puis on va peut-être changer la tranche de fromage, utiliser un décapeur thermique pour qu'elle fasse exactement la bonne ondulation, etc., etc. Donc on fait le maquillage alimentaire. Ensuite, on passe à une phase de shooting, où là, on a vraiment, enfin, les enfants vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éclairage, il y a un angle particulier qui est toujours le même d'ailleurs, qui est très intéressant. Voilà, donc on fait un shooting photo, et puis on passe à une petite retouche. Donc on a un logiciel très simple qui permet de faire de la retouche assez approfondie. On pourrait complètement enlever des boutons sur un visage, changer des cernes, changer les couleurs de peau, etc. Et donc on utilise ce logiciel de retouche pour aller jusqu'à la phase finale finalement de la retouche d'image du burger. Et on a fait comme ça tout le cheminement en gros qui nous a permis de partir de la réalité et arriver vers une image qui est médiatique, en fait, une image de publicité, une image qui sert à donner envie d'acheter. Donc voilà, et en fait, c'est en refaisant tout ce petit process, déjà c'est très fun de faire ça, c'est vraiment très rigolo, et en plus, voilà, la prochaine fois qu'un enfant sera devant une image de burger, il pourra un peu se demander comment cette image elle est arrivée là, et ce qui a permis de créer cette image, en fait. À la base, mais c'est une création, c'est une production.
Alors vous parlez d'enfants, mais c'est vraiment ouvert à tous, c'est ouvert aux familles. Est-ce qu'il y a des ateliers peut-être pour les qui sont peut-être un peu plus destinés aux adultes, peut-être moins accessibles un petit peu?
Mais tout à fait. Alors, c'est pas forcément qu'ils sont moins accessibles, c'est vraiment qu'ils sont adressés aux adultes. On a par exemple un atelier qui s'appelle Miroir Mon Beau Selfie Time, enfin voilà, on l'a nommé comme ça. Et l'objectif de cet atelier-là, c'est que les parents prennent les smartphones, se mettent dans Snapchat et en fait, on va les défier, on va leur dire, ben, tu dois envoyer une photo qui dit « j'ai faim ». Mais tu n'as pas le droit d'utiliser de mots, tu dois utiliser que la photo et les émoticônes. Et en fait, on va un peu essayer de faire en sorte que les parents se mettent dans la peau des ados quand ils publient, quand ils communiquent et qu'ils se demandent un peu, voilà. Bah déjà, c'est quoi l'outil qu'ils utilisent, comment il fonctionne, et puis comment ils l'utilisent. Est-ce qu'ils ont plutôt l'habitude de mettre leur compte en privé ou en public? Qu'est-ce qu'ils partagent? Qui est-ce qu'ils suivent, etc., etc. Donc il y a ça d'un côté par rapport aux réseaux sociaux. Et puis on fait exactement la même chose vis-à-vis des jeux vidéo qui ont des contenus qui peuvent être considérés comme violents. Donc typiquement tous les jeux qui sont interdits, PEGI 18, tout ça. Donc en fait, on a des consoles de jeux et on propose aux parents de venir essayer ces jeux pour vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc pour pouvoir en fait se faire un avis dessus. Non pas pour dire ils sont pas violents, ça craint rien, etc. Mais simplement pour qu'ils puissent avoir vraiment une représentation qui est vraie de ce que c'est, parce qu'ils y ont joué eux-mêmes, et du coup ils peuvent se faire un avis dessus, c'est-à-dire j'interdis, j'interdis pas, enfin voilà. Après, chaque choix est laissé bien sûr aux parents, parce que c'est lui qui doit savoir ce qu'il veut interdire ou autoriser chez lui. Mais nous on va donner un peu, alimenter un peu sa réflexion avec toute cette matière-là. Voilà, donc il y a des espaces et des jeux effectivement réservés aux parents qui seront fun, qui seront aussi un peu un challenge, hein, parce que faire du Snapchat à des parents, bah voilà, on verra ce que ça donne, mais ça risque d'être assez intéressant.
Alors forcément, on le disait, Fréquence École organise, mais heureusement vous n'êtes pas tout seul sur ce projet-là. 45 ateliers, ça veut dire presque autant d'intervenants, d'associations différentes. Quel type peut-être d'associations partenaires vous avez ?
Alors oui, tout à fait. Donc il y a énormément d'associations, d'acteurs, même des fois d'entreprises qui viennent à Super Demain. Alors ça dépend des thématiques. En fait, par exemple, pour tout ce qui est école et apprentissage, on est allé chercher dans l'école, dans l'éducation nationale ou dans l'associatif, des initiatives inspirantes, on va dire, pour l'éducation. Autrement dit, des gens qui ont déjà eu envie de réagir, de soit proposer des outils, soit proposer des ateliers, de la pédagogie, etc. Donc là, c'est par exemple Xumacom, eux, ils gèrent tous les espaces publics numériques de la Loire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les espaces publics numériques d'ailleurs, les EPN. En fait, c'est ces petits espaces qui se rattachent aux mairies qui sont souvent les salles informatiques. Donc c'est les lieux du territoire où il y a déjà de l'éducation au numérique. Bon, ils sont souvent réservés aux retraités qui veulent approprier un petit peu les emails, les antivirus, etc., etc. Mais il faut aussi énormément d'éducation numérique, par exemple d'apprentissage de la programmation informatique, ou alors démonter un ordi pour savoir ce qu'il peut y avoir dedans, etc., etc. Après, on a, niveau éducation nationale, on a Canopée qui sera là. Donc Canopée, c'est la ressource documentaire, par exemple, de l'éducation nationale. Donc on va se demander un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la ressource documentaire des enseignants qui concerne le numérique ? Quels sont les nouveaux outils qui sont utilisés dans l'éducation nationale ? Donc ils seront là à la lumière du grand public. Donc ça c'est pour l'école, mais en fait il faut s'imaginer que pour chacune des thématiques, il y a les associations qui correspondent. Donc pour les médias par exemple, on a un collectif de réalisateurs à Lyon qui s'appelle Entre les Mailles, qui a décidé de faire de l'éducation au numérique, autrement dit de faire de l'éducation aux images, au cinéma. Et donc eux, ils viennent un peu décrypter en fait les images de vidéos YouTube et puis les images de clips. Et ils le font avec leur bagage d'analyse d'image en fait. Donc ils sont capables de dire, ah bah tiens, le YouTuber, c'est comme dans Lord of War, au tout début, quand il regarde la caméra, c'est un peu le début, enfin l'apparition de ce mode de plan, enfin voilà. Donc voilà, donc ils ont toute une explication sur les images qui est assez intéressante. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent nous aider. Donc les étudiants qui sont concernés par les thématiques, autrement dit, pour les médias, il y a des étudiants qui étudient le journalisme, la communication, etc. Et donc eux, ils viennent partager ce qu'ils savent déjà avec le grand public et ils renforcent comme ça les rangs des animateurs de Super Demain. Donc par exemple, dans l'espace médias et information, on a des étudiants de l'ISCPA qui sont ici, qui sont des étudiants en journalisme et en communication. Et on a aussi des étudiants de Lyon 3, de la licence 360, qui vont faire toutes sortes de choses sur Super Demain, du community management, des interviews en direct, du montage, etc. etc. Donc ils seront très présents et ils ont été bien briefés, donc tout devrait bien se passer. Pour ce qui est par exemple sur la culture, on aura un collectif d'art numérique qui s'appelle AADN, qui sera ici. Donc AADN, c'est un peu plus qu'un collectif d'artistes numériques, c'est aussi un laboratoire d'usage qui, par essence, en fait, du coup, fait aussi de l'éducation numérique, c'est-à-dire ils vont amener les gens à réfléchir sur qu'est-ce que va changer le numérique à notre processus de création, par exemple. Ils font des workshops qui sont accessibles au grand public, qui permettent d'apprendre à utiliser des logiciels de programmation pour faire des rendus artistiques, utiliser par exemple les data pour faire des rendus artistiques, etc., etc. Donc ils sont aussi, eux, dans une démarche à leur manière d'éducation au numérique.
En tout cas, vous pouvez, je pense, en retrouver une grande partie hein, sur le programme de Super Demain. Quelle est peut-être la thématique, l'atelier qui a le mieux fonctionné l'an dernier ? Qu'est-ce qui plaît le plus ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
C'est une très bonne question. Bah, on a eu beaucoup de succès avec les jeux vidéo, hein. Faut pas se le cacher. De toute manière, dès qu'on met une console dans un événement, les gens sont absolument ravis. Surtout si c'est Mario d'ailleurs. Alors qu'ils l'ont déjà vu plein de fois, mais c'est ça qui marche. L'année dernière, il y a eu quand même un gros succès aussi pour l'atelier soudé qui était. Donc c'était un atelier pour combattre l'obsolescence programmée. Et en fait, ils ont proposé de démonter des ordinateurs, des téléphones, etc. pour essayer de les réparer parfois, ou simplement pour voir ce qu'il y a dedans. Et ça a remporté un assez grand succès parce que c'est un de ces ateliers qui font voir des choses qu'on ne voit jamais, en fait. Autrement dit, juste l'intérieur d'un iPhone. Parce que l'iPhone, il est tout lisse, il est tout beau, tout ça. Mais en fait, à l'intérieur, il y a 57 vis différentes. Il faut avoir 57 tournevis pour pouvoir l'ouvrir, et donc voilà. Donc c'est vrai que les ateliers où on découvre complètement quelque chose comme ça, c'est assez intéressant, c'est toujours très intéressant. Cette année, on a un nouvel atelier d'ailleurs sur la télé-réalité, et donc en fait on va fabriquer de la télé-réalité à Super Demain pour comprendre comment elle est faite bien sûr, mais on va quand même s'amuser à fabriquer de la télé-réalité, donc on va incarner en fait des stéréotypes, on challengera le public pour qu'il incarne ces stéréotypes-là. Et puis parce que le comment est fait le plateau, la salle de tournage et comment sera fait le montage, on va un peu comprendre comment c'est fabriqué. Donc ça, je pense que ça risque de marcher cette année.
Donc là, c'est effectivement l'événement très grand public, très ouvert à tous, mais Super Demain propose aussi des rencontres professionnelles qui ont lieu le samedi matin. Brièvement, de quoi s'agit-il ? À qui ça s'adresse ?
Alors, les professionnels de l'éducation, c'est très large. C'est tous les gens qui ont un rapport avec l'éducation. Donc, c'est aussi bien l'éducation nationale, ses enseignants, ses directeurs, ses inspecteurs, etc. C'est aussi bien ça que l'éducation populaire, avec les animateurs, des MJC, des centres sociaux. On a aussi les infirmières de vie scolaire qui viendront. Il y a aussi le réseau des bibliothécaires. Voilà, donc c'est vraiment très large parce qu'il y a beaucoup de thématiques différentes et chacun y trouve son compte. Autrement dit, ceux qui sont plutôt éducation nationale, on imagine qu'ils pencheront plutôt pour savoir comment doit et va évoluer l'école et l'apprentissage. On a des parcours qui relèvent plutôt de la parentalité, des parcours qui sont plutôt par rapport aux jeux vidéo, aux usages des réseaux sociaux, etc. Et puis il y a aussi la question de la petite enfance. Parce que les tout petits et le numérique, ben, c'est aussi une question qu'il faut se poser. En particulier, leur rapport aux écrans. Est-ce qu'il faut qu'ils soient devant des écrans ? Est-ce qu'il faut qu'ils soient loin des écrans ? Etc. Donc voilà. Donc c'est vraiment des thématiques en fait, sur lesquelles il y a peu de réponses. Parce que c'est très récent. Et du coup, c'est des espaces qui relèvent de la formation professionnelle, c'est des espaces qui intéressent les professionnels de l'éducation un peu pour les aider à prendre du recul sur ces thématiques.
Là, on va quand même aussi présenter un peu Fréquence École pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'organisme. C'est vous qui organisez donc Super Demain pour la seconde fois, mais vous êtes engagé depuis une vingtaine d'années dans cette sensibilisation à la révolution numérique. Quelles sont peut-être vos différentes actions finalement ? C'est quoi Fréquence École ?
Alors, Fréquence École, d'abord, ça s'appelle Fréquence École parce qu'il y a presque 20 ans, c'était tout simplement une émission de radio dans les écoles. Et en fait, on a toujours fait de l'éducation aux médias par le faire. Autrement dit, on fabrique pour savoir comment c'est fait. Et on fabrique dans les contraintes les plus réelles possibles. Donc, quand on faisait l'émission de radio, on essayait de faire comprendre aux jeunes ben voilà, comment ça se passe de manière technique, qu'est-ce qui se passe avec le planning, quel est le rythme qu'il faut tenir, voilà, est-ce qu'on a tout le temps des cernes, etc., etc. Il y a eu les médias, et puis à un moment donné, les médias numériques sont apparus. Autrement dit, ben, les médias se sont numérisés, les journaux ont eu des sites internet, des chaînes vidéo, etc., etc. Et donc nous, on a fait le pas, on s'est dit « Ok, on va faire de l'éducation aux médias numériques ». Ça veut dire beaucoup de formats différents, ça veut dire beaucoup d'échanges qui sont différents en fait. C'est plus du tout la même éducation aux médias, donc il y avait beaucoup de choses à réimaginer. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu le gros boom de la question du code à l'école. Et on s'est dit, ok, donc nous, on a une compréhension un peu de l'éducation et du numérique. En fait, on va un peu se poser la question de pourquoi tout le monde parle de code à l'école ? Est-ce que effectivement c'est intéressant ? Oui ou non, pourquoi ? Et en fait, à partir de ce moment-là, on a commencé à s'ouvrir vraiment à la question du numérique, à que change le numérique dans nos vies et quels sont les enjeux d'éducation en fait. Aujourd'hui, c'est quoi le défi de l'éducation ? Et donc on essaie déjà de se demander quel est ce défi pour pouvoir ensuite le relever et puis produire des ressources, former des enseignants, intervenir en classe, organiser des événements. Donc voilà, Fréquence École, c'est tout ça en fait. C'est aussi bien la création de ressources, de documents sur lesquels les enseignants peuvent s'appuyer, que de la formation, parce qu'il y a un énorme besoin. Par exemple, le code est passé au programme des collèges cette année. C'est bien, mais il va falloir l'accompagner, il va falloir que les professeurs, qui eux n'ont jamais appris le code, puissent s'armer pour pouvoir apprendre le code aux enfants. Et puis ça passe aussi par une phase de à quoi ça sert finalement d'apprendre le code. Et donc nous, on a quelques réponses à ça.
Merci beaucoup. Julie Bourgeois, on rappelle donc que vous êtes responsable de la programmation de Super Demain. Super Demain, c'est donc les 13 et 14 mai à Lyon, aux Subsistances. Et vous retrouvez toutes les infos sur superdemain.fr.
Merci beaucoup.